Grand Angle sur Radio Orient.
Vous êtes bien sûr Radio Orient, Grand Angle, sur la visite ce lundi et ce mardi du président français en Égypte. Emmanuel Macron s'est rendu aux confins de la bande de Gaza, dans la ville portuaire d'Al-Arish, là où arrive l'aide humanitaire pour Gaza. Il était accompagné par son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sissi, le chef de l'État français, qui lors de ce déplacement en Égypte a appelé au rétablissement immédiat de l'aide humanitaire dans l'enclave palestinienne et à la reprise du cessez-le-feu entre Israël et le Hamas. Notre invité, David Rigoulet-Rose, chercheur associé à l'IRIS, rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique. Bonjour.
Bonjour.
Tout simplement, est-ce que vous pouvez nous dire quel impact peut avoir ce déplacement d'Emmanuel Macron sur la reprise du cessez-le-feu entre Israël et le Hamas et sur le rétablissement de l'aide humanitaire ?
Cette visite, elle est surtout marquée pour symboliser le soutien, la solidarité avec le plan arabe qui avait été mis en place par l'Égypte, le 4 mars dernier. Donc c'est une manière de signifier que l'Égypte et la France en fait partagent, ça a été dit comme tel d'ailleurs, hein, ce sont les éléments de langage, convergence de vue, qu'il y a une condamnation de la reprise évidemment des activités militaires à Gaza, considérée comme un recul dramatique selon les termes du président de la République. Et évidemment, en creux, c'est un appel récurrent à un nouveau cessez-le-feu après la brève trêve qui s'est achevé dernièrement, afin d'assurer une reprise de l'aide humanitaire. Et c'est tout le sens d'ailleurs du voyage à l'Arish, puisque c'est un hub en fait qui sert de redistribution pour l'approvisionnement de l'aide humanitaire quand elle est possible, puisque aujourd'hui l'enclave est sous blocus du refus d'Israéliens évidemment de faire entrer l'aide.
Et ce déplacement à l'Arish, c'est important notamment d'un point de vue symbolique et en termes d'image, le fait que le président français rencontre des Palestiniens et des humanitaires.
Oui, c'est effectivement une manière de montrer, de manifester la solidarité de la France avec les victimes civiles, les efforts qui sont faits aussi, qui sont déployés en coordination avec l'Égypte. C'est pas uniquement une logique d'affichage, de communication. Il y a évidemment ça, mais c'est aussi signifiant politiquement. C'est pour marquer qu'effectivement, notamment par rapport au plan Trump. De début février, pour marquer que, de ce point de vue-là, l'Égypte et la France sont partie liées, avec d'ailleurs la Jordanie, hein, du roi Abdallah II de Jordanie, pour refuser ce qui est proposé. D'ailleurs, cette visite, il y a un effet miroir, parce qu'elle se fait en contrepoint d'une visite de Benjamin Netanyahou, précisément à Washington, au même moment. Et donc c'est une manière de rappeler avec ses partenaires arabes que la France est opposée au déplacement de population et même à toute annexion de Gaza, comme en Cisjordanie du reste. Et donc en appelant à la mise en œuvre du plan arabe, avec une difficulté qui évidemment est notable et qui a justifié d'ailleurs le refus à la fois israélien et du président Trump, c'est la question du Hamas pour le jour d'après. Et à cet égard, le président de la République a, non sans, évidemment, sans raison, a rappelé que le Hamas ne devait en aucune manière faire partie d'une future gouvernance et qu'il ne devait plus constituer une menace pour Israël. Donc, évidemment, c'est le postulat. Le problème de ce postulat, c'est que concrètement, il y a une obstruction, puisque le Hamas, s'il a accepté de ne pas faire partie d'une future gouvernance, au moins en termes officiels, le Hamas refuse catégoriquement de désarmer. Or, c'est un élément central, justement, de la position du refus israélien, justement, par rapport à la situation.
Et qui pourrait être en mesure de prendre le contrôle de l'enclave palestinienne ?
Alors, dans le plan qui a été proposé par l'Égypte, il y avait un élément qui était important, qui disait qu'il n'y aurait de toute façon pas de financement international majeur pour la reconstruction de l'enclave si le Hamas restait un facteur politique dominant, contrôlant le territoire. Or, c'est toujours le cas. Et donc, c'est la difficulté de l'équation, effectivement, parce que c'est d'ailleurs une des raisons qui ont justifié, du point de vue de l'administration américaine, la non-validation de ce plan alternatif présenté. Et en réalité, c'est pas tellement le volet financier qui pose un problème majeur, même s'il est extrêmement conséquent, parce qu'il est prévu sur 5 ans, une période de au moins 2 phases, avec un premier financement à 20 milliards, un deuxième à 30 milliards, en vision de 2030, donc qui ferait un total de près de 53 milliards, ce qui peut paraître faramineux, mais qui est, au regard des destructions, pas étonnant. Mais en réalité, le vrai problème n'est pas là. Le vrai problème, il est sur la question du jour d'après, l'identité de la gouvernance. Et cette question-là, pour l'instant, n'est pas résolue.
Quand Emmanuel Macron apporte son soutien au plan dit arabe pour Gaza, quel est le poids de ce soutien ?
C'est un point important parce que la France est quand même membre du Conseil de sécurité de l'ONU. Par rapport à une éventuelle résolution putative, il y a un poids objectif de la France, même si c'est pas la France qui sera le facteur dirimant déterminant, puisque de toute façon, il y a un binôme israélo-américain sur cette question, avec un soutien de plus en plus affirmé de Donald Trump à la position du Premier ministre israélien, qui par définition a refusé à la fois qu'il y ait un Hamas-tan et même un Fatah-tan, sous-entendu, même l'autorité palestinienne n'était pas envisageable. Or, c'est l'option qui est retenue justement par la position française et du plan arabe, à savoir effectivement, au bout de 6 mois, d'avoir un comité de gouvernement qui exclurait évidemment le Hamas, et au bout de 2 mois, le réinvestissement virtuel d'une autorité palestinienne avec une condition qu'elle soit évidemment réformée. C'était une des demandes explicites d'ailleurs du président français lorsqu'il avait su Mahmoud Abbas à Paris. Et c'était d'ailleurs déjà une demande de Joe Biden, hein, en parlant d'autorité revitalisée. Le problème, c'est qu'on en est loin pour l'instant, et donc c'est un peu la quadrature du cercle par rapport au Hamas.
Ces dernières semaines ont été marquées par quelques manifestations anti-Hamas. Quelle est la popularité, l'évolution de la popularité du Hamas ces derniers mois ?
Alors c'est évidemment très difficile de l'évaluer dans la mesure où il n'y a pas de sondage. Les quelques sondages sont fragmentaires. Il y a eu effectivement quelques sondages qui ont été faits. Ce qui est plus intéressant, c'est ce qui est concrètement apparu, à savoir des mouvements effectivement de contestation ouverte, ce qui est très rare. Il n'y en avait pas eu depuis le début de la guerre à Gaza. Il y avait pu y en avoir épisodiquement par le passé, mais ils avaient été systématiquement réprimés. Là, le caractère inédit de ces mouvements, notamment dans le Nord, Jabalia, Beit Hanoun, etc., et dans d'autres endroits, c'était à visage découvert, avec des revendications très explicites, en demandant le Hamas dehors, même le Hamas terroriste sur certaines déclarations, et le fait que d'autres évoquaient le fait qu'ils ne voulaient pas mourir, en écho souvent au slogan du Hamas, selon lequel le Hamas n'a pas peur effectivement du sacrifice pour la cause. Donc c'est l'idée qu'effectivement il y a un frémissement, tout simplement parce que c'est plus qu'un cri de colère, c'est un cri de désespoir en réalité. Et chose significative, ces mouvements sont apparus à l'endroit, aux zones que Israël indiquait devoir être évacué à nouveau dans la perspective d'une reprise des combats. Donc c'est pas un hasard. Et on peut penser que certains Mokhtars, des chefs, des dignitaires de grandes familles, sont pas forcément étrangers à ce type d'initiative, même si on peut pas identifier leurs responsables, puisque ça transite par les réseaux sociaux. Mais incontestablement, il y a de la part de la population un épuisement et une situation de désespérance qui fait que ce type de manifestation se produit de manière inédite, et que chose aussi importante, le Hamas n'a pas jugé bon de réprimer comme il a pu le faire par le passé, pour éviter justement de cautionner un rejet de sa stratégie.
Le Hamas qui serait donc écarté de la gouvernance de la bande de Gaza si le plan dit arabe voyait le jour, un plan soutenu par le président français depuis l'Égypte. Emmanuel Macron a-t-il les moyens de créer une forme de rapprochement diplomatique entre les capitales arabes et européennes ?
Oui, il y a une forme de synergie effectivement entre l'Europe et le plan arabe. En tout cas, il y a un soutien européen de toute façon effectivement. Sur ce plan arabe, tout simplement parce que les Européens n'ont pas envie de valider le plan spectaculairement transgressif du président Donald Trump. Et donc le problème, c'est de quelle manière l'Europe est en mesure de pouvoir peser sur les événements. Et c'est là que ça devient très difficile, parce que effectivement, il y a une forme de marginalisation et aussi le fait que l'Europe soit mobilisée sur plusieurs fronts. Il n'y a pas que le problème du Proche-Orient, il y a évidemment l'Ukraine, il y a aujourd'hui la question des droits de douane, donc l'Europe est dans l'urgence obligée de se repositionner et d'adopter une stratégie immédiate et à moyen et long terme qui pour l'instant évidemment peine à être mise en forme.
Et vous évoquez hein, les droits de douane, est-ce que l'Europe peut se ressouder d'un point de vue économique? Est-ce que ça entraînerait un rapprochement d'un point de vue diplomatique en parallèle?
Oui, c'est de toute façon, il y a quelque chose qui est en train de fermenter incontestablement au niveau de l'Union européenne. J'évoquais l'urgence, il y a eu un électrochoc, plusieurs électrochocs même, qui conduisent aujourd'hui à revoir tout le paradigme, les paradigmes préexistants. Il y a un changement de logiciel, ça passe par effectivement la tentative de définition d'une vision stratégique, que ce soit au niveau européen ou au niveau d'ailleurs proche et moyen-oriental. Le problème, c'est qu'il y a des histoires différentes des 27. Il n'y a pas une homogénéité, une unité complète. Et c'est là où c'est compliqué justement pour se positionner vis-à-vis de cette question palestinienne, d'autant plus qu'on l'a vu récemment avec certains pays comme l'Espagne, ou l'Irlande qui avait décidé de reconnaître un État palestinien, au moins virtuellement, politiquement, à défaut de ses attributs juridiques, de souveraineté juridique. La France a préféré différer dans un premier temps. On laisse entendre que la réunion à l'ONU prochaine en juin pourrait offrir une plateforme de déclaratoire justement sur cette question très sensible. Pour l'instant, l'Europe se cherche, en quelque sorte, même si, évidemment, l'Europe veut montrer son soutien, et la France en particulier, au plan alternatif qui a été proposé par l'Égypte.
Merci, David Rigoulet-Rose.
Merci.
Je rappelle que vous êtes chercheur associé à l'IRIS, rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique. Merci à vous. Très bonne suite de programme à l'écoute de Radio Orient.
C'était Grand Angle sur Radio Orient.